Radio Okapi.
Le journal Billy Yvon Lutumba.
L'agression de la RDC par le Rwanda à travers son groupe rebelle le M23 porté dans l'espace francophone à Montréal au Canada. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale lors de la 49e session plénière de l'Assemblée parlementaire francophone, convie les pays membres pour une condamnation de cette invasion rwandaise et ougandaise. Nous vous en parlons en ouverture de ce journal. On tue à Kinshasa, dans moins d'une semaine, 5 cas de criminalité avec mort d'hommes sont signalés. 2 au domicile des victimes, près des familles et pères de famille et 2 autres chauffeurs des taxis. Ça inquiète alors que la police indique avoir renforcé la patrouille en invitant les habitants à être proactifs en alertant ses services. Rebecca Lukusa, programme analyste pour le portefeuille du bureau pays du Fonds international de développement agricole, parle enfin de cette édition comme invité du projet PADRIR, programme d'appui au développement rural, inclusif et résilient dans le maniement. Pour en apprendre plus, maintenez-vous sur les différentes fréquences de Radio Okapi à travers le pays et nous vous en déroulons les autres contours. Bienvenue et excellentes conditions d'écoute à toutes et à tous. Aimable auditeur, bonsoir. La crise sécuritaire dans l'est de la RDC au cœur de la diplomatie parlementaire à la 49e session plénière de l'Assemblée parlementaire francophone qui s'est ouverte le 5 juillet à Montréal, au Canada. La délégation congolaise, conduite par Vital Kamerhe, tente de convaincre plus de 300 parlementaires du monde francophone qui y prennent part à condamner l'agression rwandaise et ougandaise dont la RDC est victime. Alors que Vital Kamerhe dénonce le silence de la secrétaire générale de la francophonie face à cette agression, Louise Mushikiwabo plaide pour le respect des accords afin de promouvoir la paix dans la région. Michel Kifindango revient sur ça. Un petit souci avec la technique. Nous parlions de cette rencontre à Montréal avec l'Assemblée parlementaire francophone qui s'est ouverte le 5 juillet et Vital Kamerhe dénonce le silence de la secrétaire générale de la francophonie face à cette agression et Louise Mushikiwabo, elle, plaide pour le respect des accords afin de promouvoir la paix dans la région. Nous avons maintenant le temps de suivre Michel Kifindangoy sur cette rencontre.
Après les travaux en commission où ont participé les parlementaires congolais, le président de l'Assemblée nationale de la RDC, Vital Kamerhe, a amorcé une diplomatie parlementaire afin de dénoncer la guerre à l'est du pays suite à l'agression rwandaise en soutien aux rebelles du M23. Après l'intervention de la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, le président Vital Kamerhe a tout de suite exprimé sa désapprobation.
Aujourd'hui, nous protestons de la manière la plus énergique de voir que Madame la secrétaire générale a parlé des conflits dans le monde, a énuméré les pays. Je préfère croire que c'était un oubli plutôt qu'une façon subtile de ne pas citer la présence des troupes rwandaises et des territoires congolais ou les troupes ougandaises.
En réaction, la secrétaire générale de la francophonie a plaidé pour la paix. Louise Mushikiwabo.
Moi, je souhaite la paix. Je souhaite que les frères et sœurs congolais, puisque je suis voisine du Congo, puissent vivre en paix et que pour cela, il faudrait que les décisions qui sont prises à travers les différentes médiations puissent être appliquées par tout le monde.
Notez que le président Vital Kamerhe prendra ce mardi officiellement la parole à la 49e session plénière de l'Assemblée parlementaire francophone.
La cession des hostilités et la désescalade tant souhaitée ne seront pas possibles tant que les Rwandais et ses alliés du M23 continueront à attiser le feu et que les dirigeants rwandais ne respecteront pas leur engagement dans le cadre des processus de Luanda. Propos de l'ambassadeur de la RDC aux Nations Unies, Zenon Mukongo Ngai, s'est ainsi exprimé hier à New York lors de la présentation du rapport trimestriel de la chef de la MONUSCO devant les membres du Conseil de sécurité. Il indique par ailleurs que la RDC défendra son intégrité territoriale, sa souveraineté et la sécurité de sa population à tout prix. On écoute le représentant de la RDC aux Nations Unies.
Il faut reconnaître, Madame la Présidente, que la cessation des hostilités et la désescalade tant souhaitées ne seront pas possibles tant que le Rwanda et ses alliés du M23 continueront à attiser le feu et que les dirigeants rwandais ne respecteront pas leurs engagements dans le cadre du processus de Luanda. La République démocratique du Congo défendra son intégrité territoriale, sa souveraineté et sa sécurité, la sécurité de ses populations à tout prix, tout en restant ouverte à un règlement politique du conflit avec le Rwanda par la voie diplomatique. Cependant, cette voie ne sera crédible que si les troupes rwandaises se retirent effectivement du territoire congolais pour permettre un dialogue franc et constructif. Mon gouvernement appelle donc le Conseil de sécurité, garant de la paix et de la sécurité internationale, à prendre pleinement conscience du danger que représente le comportement actuel des autorités rwandaises et à assumer sa responsabilité en adoptant toutes les mesures préventives nécessaires pour mettre fin à une détérioration continue de cette situation qui menace toute la région.
Sachez que lors de la présentation de ce rapport, la chef de la MONUSCO a exprimé sa vive préoccupation face à l'avancement rapide du M23 au Nord Kivu et de son expansion dans le Sud Kivu. Nous allons rester sur cette actualité concernant l'agression rwandaise en RDC. L'armée rwandaise s'implique désormais directement et de façon décisive dans les opérations contre l'armée congolaise dans les territoires de Rutshuru, de Masisi et de Nyiragongo, ce qui a permis au M23 de dominer militairement dans le Petit Nord et d'étendre rapidement leur territoire jusqu'aux rives du lac Édouard. C'est ce qu'indique le nouveau rapport du groupe d'experts des Nations Unies. Ce rapport révèle aussi que l'Ouganda apporte un appui aux rebelles du M23. Tous les acteurs armés ont recruté et utilisent des enfants dans le cadre des hostilités à une échelle sans précédent, lit-on dans le même rapport. Pelé Kipelamondo nous résume ce rapport.
D'après ces rapports, les conditions de sécurité et la situation humanitaire qui règne dans l'est de la RDC, toujours en proie à une violence intense, continuent de se détériorer. Au Nord Kivu, les forces démocratiques alliées ADF intensifient leurs attaques contre les centres urbains et poursuivent leurs opérations en Ouganda. Elles ont causé le plus grand nombre de morts, principalement des civils. Dans le Sud Kivu, la crise liée au M23 a continué d'influer sur la dynamique des groupes armés. Les vives tensions entre le Burundi et le Rwanda ont amené les deux pays à se rapprocher des groupes armés étrangers basés au Sud Kivu. Si les rebelles bénéficient de l'appui direct de l'Ouganda et du Rwanda, dont l'armée a carrément pris la direction des opérations sur le terrain, la même source renseigne que le gouvernement congolais continue d'utiliser comme supplétif les groupes Wazalendo, l'FDLR et d'autres forces pour combattre les M23 et l'armée rwandaise. À propos du M23, le groupe d'experts des Nations Unies prévient que la crise du mouvement du 23 mars risque de déclencher un conflit régional plus vaste. Dans l'ouest du pays, les rapports font aussi allusion à la poursuite du conflit dans la province du Maïndombé, alimentée par les groupes Mobondo.
La crise est dans la partie est de la RDC, on en parle, on en discute, on en suppute même. Nous restons donc toujours dans le Nord Kivu pour parler de la société civile force vive de la province qui estime que la trêve humanitaire n'aurait pas d'effet si les troupes rebelles du M23 continuent d'occuper des territoires sur le sol congolais. Le président de la coordination urbaine de la société civile ville de Goma fait cette déclaration ce mardi au cinquième jour de la trêve humanitaire recommandée par les États-Unis. Il propose aux États-Unis d'imposer l'arrêt des combats et l'ouverture des tractations diplomatiques pour une désescalade durable. Marion Gavo, dans ses propos recueillis par Bernard Nyangi.
Nous pensons que la trêve qui a été proposée par les États-Unis, c'est une voie pour la paix, pour soulager les personnes en déplacement, mais aussi pour faciliter l'assistance auprès de ces personnes en détresse. Mais la société civile pense que ce n'est que pour les urgences, mais ça ne va pas résoudre le problème. Néanmoins, vu le combat qui s'intensifie dans le Grand Nord et vu le déplacement massif dans la zone, la société civile propose au moins deux alternatives. Les États-Unis devraient imposer l'arrêt des combats sur les deux protagonistes. Et deux, tous les groupes rebelles, donc le M23 AFC, les forces ougandaises et les forces rwandaises qui combattent aux côtés des rebelles, devraient cesser les faits et rentrer dans leur pays d'origine. Et troisièmement, pouvaient, n'est-ce pas, continuer les tractations diplomatiques pour résoudre l'affaire. Mais s'il y a trêve et qu'ils sont encore sous le sol congolais, je pense que les États-Unis, là, n'aident pas les populations de la République démocratique du Congo.
Radio Okapi, une voix pour tous, pour vous exprimer, a accordé la voix aussi à la voix des sans-voix pour les droits de l'homme qui recommande à la communauté internationale d'obtenir du Rwanda le retrait de ses militaires du sol congolais. Tout en saluant la trêve humanitaire décrétée dans l'est de la RDC, la VSV pense qu'il faut aller plus loin et profiter de cette opportunité pour que cessent les hostilités dans cette partie du pays et veiller à ce qu'il y ait qu'il n'y ait pas renforcement des hommes en armes et équipements durant cette trêve. Le directeur exécutif de la VSV, Rostem Anketa, lit la déclaration de son organisation au micro de Jeff Ngoy.
La voix descend, voire croit que seules des actions concrètes, voire des mesures coercitives à l'encontre du gouvernement rwandais et ne ciblant pas la population rwandaise pourraient faire changer le régime de Kigali pour le contraindre à privilégier la paix effective et mettre ainsi fin aux violations graves et massives des droits humains des populations congolaises, dont les populations congolaises, voulais-je dire, sont victimes au quotidien. Aussi, il est important que la communauté internationale aille au-delà de la trêve ou profite de ce temps pour demander au gouvernement rwandais de retirer sans autre forme de procès ses troupes du territoire de la République démocratique du Congo. De même, cette trêve serait encore très utile si la communauté internationale pouvait imposer au Rwanda et au M23 de ne pas se renforcer en hommes et en équipement pendant toute la durée de la trêve.
Nous quittons le Nord Kivu tout en restant dans la partie est de la RDC, cette fois-ci dans la province de l'Ituri. La situation humanitaire dans cette province nécessite des solutions durables, notamment le retour des déplacés dans leur village d'origine. Ces déclarations sont faites lundi par le coordonnateur des affaires humanitaires, Bruno Lemarquis, qui est en mission à l'Ituri. Dans son échange avec le gouverneur de province, il a précisé que les moyens financiers sont très limités pour l'assistance humanitaire de tous les déplacés installés dans les sites. Aminata Moussaïdizi.
À ce jour, plus d'1 300 000 déplacés qui vivent dans des conditions précaires. C'est là, malgré tous les efforts du gouvernement et des humanitaires pour atténuer leurs souffrances, a déclaré le coordonnateur des affaires humanitaires en RDC. Il a relevé les contraintes de financement par rapport aux différentes crises dans le monde qui ne permettent pas de répondre à tous les besoins des déplacés, ce qui nécessite des solutions durables et surtout les retours des déplacés dans les milieux sécurisés et leur accompagnement pour leur réinsertion dans leurs communautés respectives. Bruno Lemarquis.
Se stabilise, faire tout ce qui est possible pour que l'aide humanitaire diminue, mais qu'on assiste les populations à retourner chez elles, à retrouver leurs moyens de subsistance, leurs activités économiques, faire en sorte que les services sociaux de base, l'éducation, la santé fonctionnent. Si les gens sont prêts à retourner chez eux, il faut vraiment les appuyer à travers ce qu'on appelle les solutions durables.
De son côté, le gouverneur de province a rassuré son hôte que la situation sécuritaire s'est améliorée depuis une année dans plusieurs entités où on assiste au retour volontaire de certains déplacés. Bounia, Aminata Msaïdizi Kitambala, Radio Okapi.
Actualité à présent dans la ville province de Kinshasa. Un homme a été tué par balle à son domicile ce mardi au croisement des avenues Lititi et Lokolo au quartier Matadi Kibala dans la commune de Mongafula. C'est le 5e meurtre enregistré à Kinshasa en moins d'une semaine. La police dit avoir renforcé sa présence dans les zones chaudes. Reportage de Fidélie Tchela et Babel Pongo Massimango.
C'est vers minuit 45 que ces bandits ont fait irruption de la parcelle de cet agent de renseignement connu au quartier sous le nom de Papa Goliath. Ils exigent de l'argent, fouillent tout ce qui pouvait constituer une cachette et finalement tirent sur ce père de famille. Sa fille témoigne.
Et puis il y a eu une discussion avec papa au couloir. Donc on ne sait pas au juste qu'est-ce qui s'est passé. On a entendu un coup de feu qui est parti. Et nous, quand on cherchait à localiser papa parce qu'on ne l'entendait plus, on l'a trouvé au couloir allongé dans un bain de sang.
Ceci est le 5e meurtre enregistré à Kinshasa en moins d'une semaine. Le week-end dernier, c'est un magistrat qui a été tué par balle dans la commune de Lancelé. Jeudi et vendredi, les corps sans vie de deux chauffeurs de taxi ont été retrouvés dans la commune de Lagombe. La nuit de jeudi à vendredi, un motard de 22 ans a été abattu sur l'avenue Pumbu à Lupen dans la commune d'Ngaliema. Contacté, le commissaire provincial de la PNC à Kinshasa affirme que pour le cas de ce mardi, la police a été alertée en retard. Et pour lui, les quatre jeeps de la PNC sont arrivés sur place, mais les criminels étaient déjà partis. Pour le général Blaise Mboula Kilimbalimba, la police continue de mener des patrouilles nocturnes avec un renfort en jeep dans les zones chaudes. Il demande à la population de demeurer vigilante et de signaler tout mouvement suspect dans les quartiers.
En plus bref, trois prévenus américains au procès de la tentative du coup d'État manqué le 19 mai déchargent leur coprévenu belge Jean-Jacques Wando. Benjamin Zalman Taylor, Thompson et Marcel Malanga témoignent de n'avoir jamais connu ni aperçu dans leur mouvement l'expert militaire belge, ancien consultant à l'ANR. À la 7e audience publique hier lundi devant le tribunal militaire à la prison de Ndolo, Zalman et Taylor sont revenus sur la même déposition faite précédemment par Malanga, à savoir qu'ils se sont retrouvés dans ce mouvement du 19 mai par contrainte car le chef de la bande menaçait de les tuer en cas de désobéissance. Le tribunal militaire poursuivra ses interrogatoires vendredi prochain à la prison de Ndolo avec les femmes travailleuses de l'hôtel Auberge Momo 19 de Ngaliema.
Actualité internationale.
Le gouvernement rwandais déclare être au courant de l'intention du Royaume-Uni de mettre fin à son plan d'expulsion des demandeurs d'asile vers le pays d'Afrique de l'Est. Dans un communiqué publié lundi en fin de journée, le bureau du porte-parole du gouvernement rwandais a déclaré que l'accord avait été initié par le Royaume-Uni pour faire face à la crise de l'immigration irrégulière qui affecte le Royaume-Uni, un problème qui concerne le Royaume-Uni et non le Rwanda. C'est la première fois que les autorités rwandaises commentent officiellement les projets du nouveau gouvernement. Le gouvernement travailliste du Royaume-Uni d'annuler le programme qui a été critiqué par les organismes de surveillance des droits de l'homme et par d'autres qui l'ont qualifié de cruel et d'inhumain. Et puis, le premier ministre éthiopien a rencontré mardi le général Abdel Fattah al-Burhan à Port-Soudan. Abiy Ahmed devient ainsi le premier dirigeant étranger à rendre visite au chef de l'armée soudanaise en guerre contre les forces de soutien rapide. Une visite aux allures de normalisation des relations entre les deux hommes.
L'invité.
Notre invité, c'est Rebecca Lukusa, programme analyste pour le portefeuille du bureau pays de FIDA. La mission de supervision conjointe gouvernement Fonds international de développement agricole FIDA a fini ce week-end de Maniema sa mission de supervision des activités financées par le programme d'appui au développement rural inclusif et résilient PADRIR. Elle en parle avec Florence Kizalunga.
Madame Rebecca Lukusa, bonjour.
Bonjour.
Dans une mission conjointe avec le gouvernement congolais, vous êtes venu pour la supervision des activités menées par PADRIR dans la province. Après avoir sillonné une grande partie de cette province et là où on mène ces activités, vos constats sont communs?
Bon, effectivement, nous sommes dans une mission conjointe de supervision du programme PADRIR. Nous avons été dans plusieurs sites pour voir la réalisation, les activités appuyées par le PADRIR. Nous avons interagi avec le bénéficiaire, les services techniques. Les constats d'emblée, c'est que les programmes commencent à prendre son envol. Ça veut dire que maintenant, les services techniques sont à pied d'œuvre pour apporter l'accompagnement technique, chacun en fonction de son mandat. Ça, c'est le premier élément qui est très important. Deuxièmement, on a vu les bénéficiaires qui ont produit, qui ont témoigné sur la qualité de la semence qu'ils ont reçue en termes de la productivité qu'ils ont réalisée, ce qui aussi est une bonne chose parce que, justement, PADRIR, c'est un programme de développement du secteur rural et agricole. Donc, quand les ménages producteurs font de bonnes productions, ça va influer sur l'économie locale. Mais aussi, ça va générer de revenus pour ces ménages producteurs et ils vont améliorer leurs conditions de vie.
On peut dire que FIDA est satisfait, la mission est satisfaite de réalisation des PADRIR sur terrain.
Bon, comparé à ce que les missions précédentes de la supervision avaient constaté, oui, effectivement, on voit que les équipes sont au travail, font le travail. Mais il y a eu des recommandations qu'on a formulées aussi pour densifier ce qui est fait déjà et amplifier pour avoir un impact assez important à l'échelle provinciale. Donc il y a eu des recommandations qu'on leur a formulées pour ce faire.
Par exemple, quelles recommandations, madame?
On a recommandé aux services techniques, vu que la majorité, ça c'est la situation de Maniema, qui la majorité des services techniques ont déjà leur protocole d'accord signé et ils ont commencé même à décaisser. Donc on souhaite vraiment que l'ampleur de l'accompagnement technique puisse accroître, mais aussi les formations dans les mises à niveau. Il y a des formations qui sont prévues en faveur des techniciens de terrain de ces services-là qui puissent organiser ces formations-là pour que leurs techniciens qui sont en contact quotidiennement avec les producteurs puissent apporter des formations, l'encadrement, l'accompagnement sur les itinéraires techniques en fonction du contexte, surtout qu'on est dans un contexte de changement climatique.
Madame, Madame, vous avez été par exemple au village Kenyé où les bénéficiaires ont souhaité vraiment avoir l'appui augmenté. Il y a certains d'autres qui disent qu'ils ont besoin d'être renforcés en capacité, par exemple dans des stations d'avélévinage. Ils ont formulé beaucoup de recommandations envers la mission. Qu'est-ce que vous leur dites à votre côté?
Bon, la mission a pris note des attentes que les bénéficiaires ont formulées, mais il faut aussi dire que les projets a souvent ses objectifs et les moyens qui sont limités. Donc, en fonction des priorités et de l'impact, il y a Senadepa qui est déjà à pied d'œuvre, va les accompagner parce que pour le secteur pisciculture, principalement, les gros de l'accompagnement, c'est les formations. Les pisciculteurs, les éleveurs avec lesquels on a interagi, ils font un peu les choses comme à la traditionnelle. Ils ont vraiment besoin d'être formés. C'est ça le plus important, accompagnement ou appui dont ils ont besoin. Mais à côté de ça, il y a aussi des stations d'alévinage qui sont en train d'être parsemées dans la province. Et donc, ça va permettre que la fourniture en alévin s'efface localement sans trop de difficultés. Et pour cela, donc, le plus important maintenant à ce stade, c'est la maîtrise de la technicité de la conduite de la pisciculture. Et ça, Senadepa est là pour les accompagner.
Madame Rebecca Lukusa, merci.
Je vous remercie, Madame Florence.
Fidèles auditeurs, nous vous disons aussi merci d'avoir été des nôtres et en suivant ce journal préparé par Peléki Pelamundo, Jude Mister Bilanda et l'ensemble de toute la rédaction, Billy Van Lutumba vous l'a présenté.